Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour Anissa, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. La France bouge, même pendant l'été. Chaque jour entre 13h et 14h, nous découvrons ceux qui construisent le monde de demain, entrepreneurs, élus, monde associatif. Ils sont là, ils osent, ils ont l'audace de se lancer, même en ce moment si particulier. Montessori, Steiner, Freinet, ces noms vous disent peut-être quelque chose. Les écoles indépendantes séduisent de plus en plus de parents, des méthodes différentes, centrée sur la personnalité de l'enfant, l'apprentissage des langues, pour aider les enfants à devenir des acteurs libres, autonomes et engagés dans le monde de demain. Là aussi, des Françaises et des Français se lancent dans ce pari fou de revisiter l'école d'aujourd'hui. Dossier complet avec nos invités à 13h30. Ce sera après le pitch d'un entrepreneur qui se lance, challengé par notre coach. Et bien sûr, la solution aujourd'hui, simplifier le don, découvrir des associations grâce à Simone Donne. C'est ça, la France qui bouge, même pendant l'été.
Europe 1.
La France bouge à mes côtés pendant toute l'émission. Aujourd'hui, c'est Marjorie Adelson de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Marjorie.
Bonjour Elisabeth.
Et Fabrice Marcella, fondateur du Village Baïséa. Bonjour Fabrice.
Bonjour Elisabeth.
Vous
allez
bien ?
Je ne fais que diriger, je ne l'ai pas fondé.
Bon, alors vous dites dirigeant du Village Baïséa. Fabrice, vous êtes notre coach, alors vous avez une mission importante parce que vous allez challenger, bousculer, applaudir peut-être nos entrepreneurs, nos associations qui passent chaque jour dans la France bouge. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Et là, c'est le moment peut-être de se lancer. Certains la saisissent, cette opportunité comme vous. Bonjour Benoît Galano.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci à vous. Vous êtes le fondateur de Filou. Filou, ça s'écrit F-I-L-2-O. C'est une application, elle a été lancée au mois de mai. Vous faites donc partie de ces personnes qui osent, qui ont osé pendant le confinement. Elle tombe à pic, cette application, en ce moment, parce qu'elle permet d'attendre moins de temps dans une file d'attente dans un magasin. Benoît, vous allez tout nous raconter. Vous allez faire ce qu'on appelle un pitch dans notre jargon. Vous avez 1 minute 30, c'est parti.
Allez, c'est parti. Et bien, pour commencer, je m'étais dit que ça serait plutôt pas mal que je discute et que je parle du moment où j'ai eu l'idée qui est arrivée dans ma tête, l'idée de Filou. Et désolé, même si à Bordeaux, il y a quelques nuages aujourd'hui, on va quand même perdre quelques degrés, car c'était au marché de Noël à Bordeaux. J'étais en famille, je cherchais le stand des marrons grillés, que je déguste une fois par an, et au détour d'une allée, eh bien, je suis tombé sur le stand en question, mais pas que le stand, il y avait également une file de 50 personnes. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je veux pas être la 51e. Eh bien, Filou, c'est l'appli mobile qui va permettre d'être mis en relation avec une personne, déjà présente dans la file, et passer une commande sans attendre. À l'inverse, si vous êtes en train d'attendre pour vos propres achats, eh bien, Filou, ça va vous permettre de gagner un peu d'argent en prenant une commande pour une personne pressée. En schématisant, en gros, le cœur du service, c'est donc accéder à la communauté Filou grâce à la géoloc et passer ou recevoir une commande avec une pourboire pour celui qui attend. On a donné des petits noms à nos utilisateurs. Alors, si vous souhaitez passer une commande sans attendre, vous êtes un Filou Time. À l'inverse, si vous êtes déjà dans la file, vous acceptez une commande avec un pourboire, et bien là, vous êtes un Filou Cash. Bien sûr, la sécurité est notre priorité. Alors, l'appli permet de réaliser des paiements avec une carte bancaire sécurisée. On peut imaginer comme Vinted ou Le Bon Coin qu'on garantit les transactions aussi bien pour le Filou Time que pour le Filou Cash. Et avec notre système, en gros, les deux utilisateurs sont assurés soit de récupérer leur achat si c'est des Filou Time, soit d'être payés si c'est des Filou Cash. Tout ça grâce à un code accessif qui est remis à la fin.
Le pitch est terminé, on n'a pas entendu le jingle pour dire que c'est terminé. Ah. Benoît Galano, merci. On n'a pas tout entendu, on va essayer de résumer. Donc Filou, c'est une application qui permet de ne plus attendre longtemps dans une file d'attente. C'est un système qui géolocalise les deux utilisateurs qui sont mis en relation via un chat automatisé et ils suivent en direct l'avancement de la commande. Je me tourne vers Fabrice Marcella, notre coach, qui a une question pour vous.
Bonjour Benoît. Alors, c'est une super idée. J'imagine que cette idée, elle a dû être développée également pendant toute la phase de confinement où on faisait une file d'attente à n'en plus finir lorsqu'il fallait se rendre à la pharmacie, lorsqu'il fallait se rendre pour aller faire des courses. Est-ce que ça a été mis en place également lors de cette période un petit peu compliquée que les uns et les autres ont vécu hein ?
Alors, pas du tout. Alors, c'était en effet une opportunité. Alors, pas du tout parce que la solution est toute récente. Ça fait quand même un an et demi que j'ai eu l'idée. Mais la réalisation technique nous a fait passer une période un peu particulière avec le Covid puisque j'ai pas pu lancer en vrai les tests sur les points de vente à cause de l'aide du confinement. Ça ne m'a pas empêché de continuer à développer le projet, puisque la solution est live sur les Apple Store et Play Store. Mmh. Et je permets dès aujourd'hui de mettre en relation des films time et des films class. Donc, c'est
des quoi des quoi des
films time.
Film time c'est quoi? Ah, pour gagner du temps. Ok.
Voilà. Vous êtes mis en relation avec quelqu'un qui est déjà présent.
Alors, par exemple, concrètement, je suis dans un magasin, je suis dans la file d'attente, j'ai au moins un quart d'heure d'attente, je peux entrer grâce à vous, grâce à votre application, avec une personne qui se trouve devant, hein, en tête de file, et il peut récupérer ou payer mes achats. Comment ça se passe très concrètement?
Très concrètement, le Filoutime peut envoyer, donc, comme vous l'avez dit, une commande à un filou cash.
Mais c'est quoi une commande? C'est quoi une commande? C'est-à-dire, je lui dis, je suis à la fin de la file et je suis derrière vous et j'aimerais bien pouvoir...
Recevez, qu'est-ce que je veux, combien ça coûte et qu'est-ce que je laisse comme pourboire pour que vous fassiez la commande pour moi.
Oui,
et
mais attendez, mais c'est quoi comme commande? Parce que moi, quand j'achète un vêtement, je ne laisse pas un pourboire. C'est pour quel type de magasin?
Alors, vous avez entendu, j'ai développé la solution avant la période Covid et donc on était dans des moments d'événementiel, de festival.
Donc c'était pour les festivals.
De ne pas faire le choix entre aller boire son concert ou avoir son sandwich ou son burger, par exemple. Donc, je reçois une notification que mon burger est en caisse.
D'accord.
Et je peux vite repartir voir mon artiste préféré.
Ok, donc ça, c'était avant le confinement. Maintenant, il y a moins de monde, il y a plus de festivals. Donc, comment et à quoi va servir votre solution?
Et donc, maintenant, pour nous faire connaître, cet été, on se balade sur les zones touristiques.
D'accord.
Et donc, il y a quelques points où les sites apparaissent avec les beaux jours. Et la chaleur et le beau temps, c'est les vendeurs de glace, par exemple.
Mm-hmm.
Donc là, je veux faire ma preuve de concept sur toutes ces saisons touristiques où les fils apparaissent, malgré tout.
Mm-hmm.
Et je continue à croire en cette solution, qui est une solution avant tout pour se faire plaisir.
Mm-hmm.
Je n'omets pas, en effet, les barrières, les gestes barrières.
Bien sûr, on n'oublie pas les gestes barrières.
Et je pense vraiment, d'ailleurs, que c'est une application, c'est vrai que je ne mets pas ça en avant, mais c'est une application qui
D'accord.
est complètement en phase avec ce qu'on doit faire en ce moment.
Très bien, ça s'appelle Filou, F-I-L-2-O. Merci à vous Benoît Galano. C'est donc une application qui ne permet de ne plus attendre des heures, hein, quand on a envie de s'acheter une glace ou une boisson fraîche. Hein.
Oui,
On gagne du temps.
Et peut-être qu'on fait des rencontres.
Et
avec celui qui nous a acheté notre glace.
On pourra avoir un couple Filou.
Pourquoi pas, il est 13h19.
Europe 1.
Un problème, une solution, vous avez envie de faire des dons à plusieurs associations, c'est pas facile hein, de s'y retrouver. Eh bien, il existe une solution et ça s'appelle Simone Donne. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag et place à la solution du jour, Elisabeth.
La solution, c'est donner à tout type d'association en un seul don. C'est beaucoup plus pratique et c'est la solution du jour avec vous, Marjorie. Ça s'appelle Simone Donne.
Oui, on a beau être de bonne volonté, c'est pas toujours facile de savoir à qui donner. Rien qu'en France, il existe plus d'un million d'associations. Ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Bonjour Marie-Emmanuelle Piquet.
Bonjour Marjorie.
Merci d'avoir fait le déplacement depuis Rennes. Vous êtes la présidente et cofondatrice de Simone Donne. Alors Simone Donne, c'est une plateforme qui existe depuis décembre 2019. Elle permet de faire des dons à une trentaine d'associations directement depuis votre site. Ces associations, eh bien, elles sont classées par catégorie, par exemple en santé, environnement, protection animale ou encore culture. Et certaines sont connues alors que d'autres sont beaucoup plus petites. Et pour nous aider donc à faire notre choix, vous proposez un petit descriptif ainsi qu'une courte vidéo de présentation de chaque association. Pour les indécis comme moi, on peut également voir la répartition de l'ensemble des dons récoltés sur le site selon les catégories. Et puis pour les phobiques de l'administration, on peut même récupérer son reçu fiscal immédiatement après le don, directement sur le site. C'était important pour vous, Marie-Emmanuelle Piquet, de rendre le don simple, facile et varié ?
Oui, c'était vraiment très très important et c'est ce qui manque, je pense, aujourd'hui, en tous les cas, pour ceux qui ne donnent pas. On a rencontré beaucoup de non-donateurs qui nous ont remonté ça. Ce besoin de flexibilité, de liberté, de simplicité. Donc cette flexibilité, elle s'exprime sur notre site par la possibilité de faire des dons ponctuels, des dons mensuels. Les dons mensuels, j'ai un regret, je me suis engagée hier sur une mensualité de 12 mois pour une association. Je me dis, ah, moi, j'aimerais augmenter cette mensualité, la réduire, la diminuer pour donner aussi à une autre. Et bien, c'est possible, vraiment, en quelques clics sur son espace, mon compte.
C'est-à-dire qu'on peut complètement changer d'avis. Si on a fait le choix de donner 20 euros, par exemple, par mois à une association, on peut changer et dire, le mois prochain, je passe à 10 euros et je change complètement mes associations.
Oui, tout à fait. D'accord. Très, très facilement.
Et je crois que vous
Pardon, je ne parle pas bien dans le micro.
Oui, vous, voilà, approchez-vous du micro, Marjorie. Oui.
Je crois que vous avez aussi une démarche qui essaye de déculpabiliser justement le donateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors...
C'est-à-dire déculpabiliser ?
En tous les cas, de ne pas être culpabilisant. Alors, pareil, on a beaucoup eu ce retour d'avoir le sentiment d'être sursollicité. En tous les cas, cette crainte de le devenir dès lors qu'on fera un don. Donc notre promesse, c'est bien sûr, on a besoin de récolter des données personnelles pour effectuer les reçus fiscaux, pour avoir un espace Mon Compte, on a besoin d'une adresse mail, mais au-delà de ça, les données personnelles ne serviront jamais à envoyer de newsletter, que ce soit de notre part ou de la part des associations, ça ne servira vraiment qu'aux dons. Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, si par exemple on décide de ne plus donner à une association, on n'a pas d'appel pour se justifier, pour pouvoir expliquer cette démarche-là.
Exactement, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, comme on l'entend.
Que dit notre coach Fabrice Marcella ?
Bonjour Marie-Emmanuelle.
Bonjour.
Moi, j'avais une question autour de votre modèle économique. C'est-à-dire que quand on est un donateur et qu'on donne de l'argent à une association, on a envie de savoir comment est utilisé notre argent.
Oui.
Quel est votre modèle économique et quel est votre modèle original aussi que vous avez décidé en termes de rémunération ?
Oui. Alors, aujourd'hui, on a des frais de fonctionnement pour que notre site tienne debout. Du coup, ces frais de fonctionnement, notre souhait, c'est qu'ils soient remboursés par une commission de gestion, enfin qu'ils soient financés par une commission de gestion qui est de 5% sur les dons aujourd'hui. Par contre, pour ce qui est de notre rémunération, on exclut qu'elle puisse venir des dons parce que, voilà, éthiquement, ça ne nous correspond pas de fonctionner comme ça. Donc, pour envisager une rémunération, on va développer un volet entreprise. On est en train là de le faire avec des entreprises pour les accompagner dans leur politique RSE, que ce soit en externe ou en interne, pour qu'elles puissent aussi leur fournir des services sur lesquels là on pourra envisager de se rémunérer pour impliquer leurs salariés autour de leur démarche de don. Puisqu'on sait que beaucoup d'entreprises ont besoin aussi d'embarquer leurs salariés.
Et c'est le cas, vous êtes déjà en contact avec des entreprises qui sont intéressées par votre service ?
Oui, avant de se dire que c'était un business plan qui tenait la route, on a eu besoin de s'en assurer
d'avoir
auprès d'entreprises.
D'avoir ces soutiens-là, c'est bon.
Oui, c'est bon.
D'accord. Et comment vous choisissez vos associations ? Parce qu'il y en a tellement, je ne sais pas vous, et on s'y perd. Est-ce que vous avez des critères de sélection ?
Alors, dans un premier temps, forcément, avant d'être en ligne, on en a sollicité de nous-mêmes. Aujourd'hui, il y en a aussi qui nous sollicitent
spontanément,
merci. Et du coup, nous, on a vraiment besoin d'avoir aussi une présentation, une sélection fluide pour nos utilisateurs. Donc, d'avoir une complémentarité dans les associations qu'on met en avant. Que l'utilisateur s'y retrouve. OK, celle-ci, elle fait ça, celle-ci, elle fait ça. On ne dit pas que demain, on refusera de référencer... une association avec laquelle on a échangé. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans une course au référencement d'associations.
Vous acceptez tout le monde, là ?
Non, justement. Ah. On n'est vraiment pas dans cette course du référencement des assos. On prend notre temps vraiment d'échanger de façon très... sans se presser avec chacune des associations, notamment pour être sûr qu'il y a un besoin de soutien financier à court terme, mais aussi sur le long terme. Voilà, parce que parfois, il y a des gros chantiers rapides qui sont plus des appels à projets qu'un besoin sur le long terme. Donc on prend notre temps et on veille à ce qu'il y ait une complémentarité.
Quand on va sur votre site, on voit qu'il y a un design qui est assez sympa. On voit que les vidéos ont des formats très courts, de 1 minute. Vous cherchez à viser un public jeune ?
Oui, tout à fait. On sait que les jeunes, les 20-40 ans, sont pas les plus donateurs aujourd'hui. Peut-être qu'ils ne s'y retrouvent pas, justement. En tous les cas, c'est ce qu'on a recensé. Et l'idée de cette approche vidéo d'une minute qui permet vraiment de switcher très rapidement d'une asso à l'autre pour faire vite son choix. Les gifs, forcément, on aime beaucoup les gifs. Donc vraiment, ce ton un petit peu décalé, il est là aussi pour ça, pour que la démarche de don soit sympa, légère, sans rien enlever au sérieux des causes qui sont...
Et dernière question, pourquoi Simone ? C'est qui ?
Ah, alors, on voulait un nom qui soit facile à retenir. J'espère que
Qui traverse les générations.
C'est ça. Et beaucoup de Simone ont fait bouger les choses, donc on espère qu'on arrivera à notre petite échelle à faire la même chose.
Et puis ça rime avec tu donnes, donc c'est parfait.
C'est voilà.
Ça. Et ça se retient facilement.
C'est ce que l'on vous souhaite en tout cas. Ça s'appelle Simone Donne. Merci à vous Marie-Emmanuelle Piquet.
Il est 13h28. Europe 1.
Elles séduisent de plus en plus de parents, elles naissent un peu partout en France. On les appelle les écoles alternatives. Elles proposent des manières d'enseigner radicalement différentes des écoles traditionnelles. Elles prennent davantage en compte la personnalité de l'enfant. Des Françaises et des Français se sont lancés dans la création de ces écoles. On en parle et c'est le dossier du jour. À tout de suite. Il est 13h30 sur Europe 1, la France bouge jusqu'à 14h avec Elisabeth Assayag. Gros plan sur le dossier du jour. Elisabeth, on s'intéresse aujourd'hui aux écoles alternatives.
Oui, en 2019, 113 nouvelles écoles indépendantes ont ouvert leurs portes, hein, des écoles un peu en marge du système éducatif officiel français. On accueille tout de suite Lionel De Vigue. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président et le cofondateur de la Fondation pour l'école. La Fondation pour l'école, ça existe depuis 10 ans. Et votre objectif, c'est que tous les enfants en France trouvent une école qui leur convienne et qui leur permette de s'épanouir.
C'est exactement ça. Nous sommes partis du constat qu'il y avait une crise de l'éducation. Ça, je dirais que devient un lieu commun. Mais il y avait aussi beaucoup de bonne volonté et des personnes qui se mobilisaient, issues pour l'essentiel de la société civile. Donc la Fondation a été créée pour et reconnue d'utilité publique pour une mission principale qui est d'aider les créateurs d'écoles à réaliser leurs projets par du conseil technique, juridique, fiscal, mais aussi par des soutiens financiers. Donc elle s'adresse vraiment à tout type d'école. Et ensuite, quand il s'agit de soutenir financièrement des projets dans leur démarrage, elle soutient des écoles qui correspondent un peu aussi à la charte qu'elle a définie, des établissements qu'elle souhaite aider, mais à travers nos activités de formation pour les créateurs d'école, les directeurs d'école,
donc vous accompagnez,
et pour la formation des maîtres.
Donc vous accompagnez tous les porteurs de projets d'écoles innovantes, à la fois au niveau du conseil pédagogique, mais aussi financièrement, parce que généralement ce sont des écoles, tous ces projets ne reçoivent aucune subvention de l'éducation nationale.
Tout à fait, effectivement. Quand on veut créer une école aujourd'hui en France, le droit le permet, le code de l'éducation prévoit des dispositions en ce sens, mais les financements publics ne peuvent être accordés qu'à partir de 5 ans d'existence si l'établissement obtient le contrat pour 1, 2 ou 3 classes. C'est un contrat qui est accordé par classe, donc il y a un certain nombre d'établissements qui ont pu être créés il y a 5 ans et qui obtiennent une classe financée par l'État et puis petit à petit d'autres. Donc nous sommes là vraiment pour aider au démarrage où il n'y a pas de fonds publics. Donc ces écoles reposent essentiellement sur les contributions des familles. Et puis dans un certain nombre de structures qui sont à but non lucratif, et ce n'est que celles-ci que nous pouvons soutenir avec la Fondation, puisque la Fondation ne vit que de dons, elle ne peut soutenir que des organismes d'intérêt général. Et donc nous les aidons dans cette période un peu critique, parce que sinon les scolarités sont assez élevées. Si une école doit fonctionner qu'avec les scolarités des familles, on est sur des tarifs qui souvent sont difficilement abordables. Tandis que sous la forme d'associations, avec une part bénévolat, avec des administrateurs qui s'impliquent, on arrive à tenir des prix à peu près accessibles encore. Et la Fondation vient en aide pour le financement d'un premier salaire.
Vous accompagnez combien d'écoles, là, depuis le début, depuis 10 ans, vous avez accompagné combien d'écoles?
Alors, en fait, je vais vous donner une idée des chiffres. Il y a 10 ans, vous aviez 800 établissements indépendants identifiés. Vous en avez maintenant 1500. Ouais. Donc, il y a eu une très, très forte croissance que nous avons accompagnée, puisque chaque année, nous aidons entre 80 et 100 écoles financièrement. Nous en conseillons davantage à travers les formations que nous donnons. Et donc il y a eu un boom
Il y a une vraie demande. D'ailleurs, Marjorie, ces dernières années, les écoles alternatives connaissent un essor considérable.
Oui, depuis quelques années, ce type d'établissement se multiplie un petit peu partout en France. Chaque année, plus de 100 nouvelles écoles alternatives ouvrent leurs portes. Le nombre des établissements a même été multiplié par 4 en 7 ans. Mais ça reste peu par rapport aux États-Unis ou à nos voisins européens. À titre d'exemple, si on ne comptabilise que les écoles Montessori, on en dénombre 1000 en Allemagne, 600 en Grande-Bretagne, contre seulement 200 en France. Il faut noter que les écoles alternatives sont en grande majorité des écoles primaires et maternelles. Et dès le collège, ces écoles se font beaucoup plus rares.
Que dit notre coach Fabrice Marcella à Lionel De Vigue?
Bonjour Lionel. Eh bien moi, bonjour. En tant que parent, j'ai toujours besoin d'être rassuré finalement. Mmh. Et je veux toujours le meilleur pour mes enfants. Donc comment, aujourd'hui, je peux m'assurer que ces écoles indépendantes présentent les garanties de qualité, en tout cas quant à...
De qualité d'enseignement, de sécurité, de bien-être.
Est-ce que c'est le rôle d'ailleurs peut-être de la Fondation que de les référencer, d'avoir un annuaire?
Oui, vous avez des critères justement à la Fondation pour l'école?
Alors, nous avons un annuaire que nous tenons presque quotidiennement à jour, que l'on peut trouver sur un site internet, hein, école-libre.fr au pluriel, qui recense toutes les écoles en cours de création, les projets, selon leur pédagogie, selon leur caractère confessionnel ou pas, hein, puisque aujourd'hui, dans la masse des écoles indépendantes, il y a 70% qui sont à confessionnel et les autres qui sont identifiés comme des structures confessionnelles et puis d'autres que nous identifions par leur pédagogie. Et évidemment, le meilleur juge de la performance, en quelque sorte, si on peut parler comme ça, d'un établissement, ce sont en premier lieu les familles. Et je crois que bien souvent, quand elles ont pu mesurer l'impact sur leurs enfants de la mise en œuvre de certaines pédagogies, et en réalité bien souvent de plusieurs pédagogies, puisque on n'est jamais le pédagogue d'une seule méthode, hein. Je crois qu'un bon pédagogue, c'est celui qui sait s'adapter aux enfants. On voit bien que le taux de satisfaction est assez important.
Mais
du côté de la Fondation,
c'est aussi une question qu'on se pose moins quand on met les enfants en école publique traditionnelle. On se pose pas toutes ces questions de taux de satisfaction. Là, vous avez la possibilité de le mesurer, ce qui n'est pas forcément le cas dans les écoles publiques classiques.
C'est vrai que la fin du primaire n'est pas sanctionnée par un examen national, contrairement au brevet ou au bac, hein, où là, on voit bien.
Ni par un questionnaire auprès des parents.
Voilà, donc c'est soit des questionnaires. Nous-mêmes, on a bien compris qu'il y avait un vrai besoin des écoles, dès leur création, d'être accompagnées au plan de la qualité. C'est pour ça qu'on a mis en place un label qualité avec une certification qui nous est de plus en plus demandée. Et demandé également aussi par le réseau des écoles Montessori, qui a beaucoup apprécié la qualité en fait de ce label.
Et la création de votre label qui rassure, hein, comme vous le demandez, Fabrice. Merci pour cette présentation de la Fondation pour l'école, Lionel De Vic. Justement, on va directement aller voir comment ça se passe dans le concret avec l'autre école. Bonjour Lionel Sayag.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de l'autre école. L'autre école, si je résume, c'est que vous aidez chaque enfant à devenir lui-même grâce à ce que vous appelez la liberté encadrée.
Oui. Nous, justement, par rapport à toutes ces interrogations qu'on a pu avoir sur l'éducation, on s'est dit qu'il était temps de repenser la finalité de l'éducation et de se poser les vraies questions, les vraies bonnes questions. Et donc, nous, on considère que le but de l'éducation, c'est de développer le plein potentiel de chaque individu, de chaque enfant, et que c'est ça l'objectif qu'on se donne. Et le système éducatif tel qu'on l'a connu, qui a été construit sur un modèle de productiviste il y a deux siècles, sur le modèle soit militaire, soit sur le modèle d'une société, d'une entreprise, nous, on considère qu'on doit retourner ce système-là. Et le but, finalement, c'est de faire en sorte que chaque enfant devienne proprement lui-même pour se rapporter à la philosophie nietzschéenne. Et donc, que chaque enfant puisse trouver, selon les différentes traditions, on parle d'ikigai, de nigun, enfin, plein de ces choses-là qui sont...
C'est quoi? C'est des philosophies de vie?
C'est des choses qu'on a en nous, une lumière, quelque chose, n'importe
Faire
quoi.
Faire sortir le meilleur de soi.
Exactement.
Alors, je reviens sur l'autre école. Ça existe depuis 2016.
Oui, hein.
Vous êtes situé à Boulogne, Billancourt, dans la Haute-Seine. Vous accueillez des enfants âgés de 3 à 11 ans, c'est-à-dire de la petite section jusqu'en CM2. Qu'ont-elles de si particulier les journées? Elles se passent comment par rapport à une école classique?
Déjà, on a une forte volonté de coéduquer avec les parents. Donc l'école est ouverte aux parents tous les matins.
Ça veut dire que les parents entrent en classe et s'installent?
Les parents ne s'installent pas forcément en classe, mais en tout cas, ils restent pendant 30 minutes ou 45 minutes le matin pour partager avec les enseignants et les enfants. On a vraiment cette idée d'avoir quelque chose.
Ils sont contents, les enfants? Parce que
les enfants sont
généralement,
contents,
ils ont envie que les parents s'en aillent, non?
Oui, après, enfin, en fonction des âges, les parents partent un peu plus tôt, mais quand les enfants plus jeunes sont contents, et surtout à la sortie du confinement, ils étaient très contents, les enfants, d'avoir leurs parents avec eux. Après, ça se fait en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour que ça se passe bien, pour respecter le rôle des enseignants aussi, c'est extrêmement important. Mais donc, on a vraiment cette volonté, nous, de coéduquer avec les parents, donc on sont vraiment des partenaires avec qui on réfléchit à un projet pédagogique ensemble, et puis tout au long de la journée...
Donc c'est de l'école collaborative, hein. Avec les parents.
C'est une école, oui, qui se veut collaborative avec les parents. Ça veut dire que chacun garde son rôle quand même, mais en tout cas, le rôle des parents, c'est l'éducation, c'est la finalité. Et dans ce que vous disiez au préalable, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on a oublié de se poser la question de la satisfaction de l'école. Mmh. Il y a des questions qu'on a oublié de se poser depuis un certain nombre d'années.
C'était comme ça et pas autrement.
Voilà, on nous a dit c'est l'école publique, il faut mettre vos enfants là-bas. Bah non, en fait, l'école, c'est vous, en tant que parent, qui développez une éducation pour vos enfants. Et ensuite, vous demandez à certaines personnes de vous aider dans cette éducation.
Lionel Sayag, vous restez avec nous. Hein, vous allez continuer à nous parler de l'autre école juste après une petite pub.
Il est 13h40.
Europe 1.
On parle des écoles alternatives aujourd'hui sur Europe 1. Et nous sommes toujours avec Lionel Sayag, le fondateur de l'autre école. Et nous allons accueillir aussi Pascale Hag, la fondatrice de la Lab School Paris. A tout de suite. La France bouge sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag et le dossier du jour jusqu'à 14h consacré aux écoles alternatives aujourd'hui. Oui, et nous sommes toujours avec Lionel Sayag. Lionel, vous êtes le fondateur de l'autre école qui existe depuis 2016. Vous êtes à Boulogne-Billancourt. Les enfants sont âgés de 3 à 11 ans, de la petite section jusqu'en CM2. Vous étiez en train de nous dire que c'était une école où vous preniez énormément en compte l'avis des parents. Hein. C'était presque un modèle collaboratif. Les parents arrivent le matin, ils restent peut-être jusqu'à une demi-heure en classe avec les enfants. Les enfants sont tous mélangés ?
Les enfants sont mélangés, ouais. Donc c'est des classes multiniveaux. Donc ça, c'est beaucoup d'inspiration Montessori. Et puis après, on essaye aussi de faire une pédagogie par projet l'après-midi où toute l'école travaille sur la résolution d'une même problématique. Donc pour vraiment sortir de ce système d'âge qui est lui aussi hérité de l'industrialisation. Et donc le but, c'est de vraiment avoir une éducation et une pédagogie qui s'adapte à chaque enfant et à son propre parcours. Et parfois, il y a des gens qui sont plus avancés en maths, d'autres moins en anglais, etc. Et donc ce mélange, il est vraiment riche pour tout le monde.
Alors ce qui fait aussi votre singularité, c'est que vous regroupez dans un même lieu quatre type d'école. L'école telle que nous la connaissons, service de l'éducation avec une école primaire, un atelier périscolaire où on peut faire des petites choses, des petits ateliers artistiques, un atelier pour les parents le soir. Vous avez pensé aux parents alors que nous sommes à l'école, vous allez nous expliquer pourquoi, sur la pédagogie positive, la parentalité, etc. Mais c'est aussi une école du lien puisque votre lieu est ouvert le week-end, on ne se quitte jamais avec vous.
C'est ça, en fait, nous, on a vraiment essayé de repenser. En fait, l'ambition de l'autre école, c'est de transformer la société, en passant par une transformation du système éducatif. Et pour cela, on veut faire en sorte de changer l'école et en même temps de créer des lieux qui soient liés à cette transition sociétale pour laquelle on milite. On est de plus en plus nombreux à militer. Et donc, c'est vraiment un lieu qui est dédié à la transmission au sens large. Donc, pour les enfants, bien évidemment, pour les enfants après l'école, mais également pour les parents, parce qu'en fait, tout ce qu'on porte aujourd'hui, ça doit faire sens pour que ça soit accompagné au sein de la maison aussi, parce que sinon il y aurait un décalage trop important justement. Donc l'idée, c'est aussi d'accompagner les parents là-dedans, de les former, pourquoi pas avoir on réfléchissait un jour à un diplôme de parentalité, même si le mot fait un peu peur, mais en tout cas c'est sans doute le métier le plus important que vous avez dans votre vie, celui d'éduquer vos enfants,
et on n'est pas formé
et vous n'êtes pas du tout préparé à ça, et pourtant il y a plein de choses à faire. Donc l'idée, voilà,
donc
c'est
aussi les ateliers pour les parents, c'est vous de leur donner des conseils pour qu'ils puissent appliquer à la maison le type d'éducation, de pédagogie que vous enseignez.
Oui, c'est ça. Et après, conseils, on n'est pas non plus donneur de conseils parents, mais c'est plutôt donner des clés, des moyens sur la pédagogie positive.
Alors, ça donne quoi comme enfant ? Depuis 2016, vous avez un petit recul quand même.
Ça donne des enfants extrêmement heureux, ça c'est la première chose, c'est certain. Des enfants qui sont beaucoup plus épanouis, beaucoup plus libres.
Ils sont bilingues, les enfants, chez vous.
Franchement, nous, une de nos plus belles réussites, c'est ça. C'est des enfants qui parfois avaient des problèmes dans un système traditionnel et qui, en à peine un mois, retrouvent le goût d'apprendre, le plaisir et reprennent confiance en eux. Et puis, de toutes les façons, c'est des enfants qui réclament à leurs parents le retour à l'école, qui sont le week-end, ils réclament le lundi matin. Donc, c'est des enfants qui sont heureux d'apprendre et qui ont cette chance d'être eux-mêmes.
Mais moi, j'ai l'impression que dans les écoles publiques aussi, c'est centré sur l'enfant, sur l'épanouissement de l'enfant. Les enfants sont aussi heureux d'aller à l'école. Donc ça va pas, c'est pas en opposition au système actuel.
Nous, on n'essaie pas d'aller dans une opposition frontale au système actuel. On pense que, d'une manière très claire, la finalité du système actuel, il est très différent de la finalité de celle qu'on porte.
Fabrice Marcella, notre coach, a plein de questions,
Lionel,
pour vous.
Le projet pédagogique que vous défendez est extrêmement séduisant, mais il s'arrête en CM2. Et certains disent, en tout cas certains détracteurs peuvent dire qu'ils auront plus de difficultés à s'intégrer que les autres lorsqu'ils vont au collège. Qu'est-ce que vous constatez ? Comment vous continuez finalement cette manière d'accompagner les enfants aujourd'hui ?
Nous, il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, on suit le programme de l'éducation nationale, donc c'est important pour nous. Les enfants, ils peuvent revenir dans un système beaucoup plus traditionnel à n'importe quel
vous
moment.
Vous le suivez, mais c'est hors contrat, c'est pas sous contrat.
C'est hors contrat, oui. Mm-hmm. Mais on
le
suit.
Il y a un socle commun, je crois.
Il y a un socle commun, ouais. Il y a beaucoup de nos enseignants qui sont passés par le système par l'éducation nationale, qui sont diplômés, etc. Donc ça, c'est déjà une première obligation qu'on se donne, une obligation de résultat là-dessus. Deuxièmement, c'est ce qu'on disait, on considère que les enfants, ils vont acquérir des choses qui vont leur servir pour toute leur vie, la confiance en eux, la résilience, développer leur confiance émotionnelle, leur capacité à collaborer, leur sens critique. Toutes ces choses, ça va leur servir pour le reste de leur vie. Et donc, au contraire, ils vont davantage s'adapter aux suites, puisqu'ils sont, ils seront prêts à tous ces changements. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que nous, on a aussi une volonté de faire une montée pédagogique très progressivement, et donc d'aller vers le collège et vers le lycée.
D'ouvrir un collège et un lycée en fonction de tout ce c'est que ça. Vous êtes en train de mettre en place.
On essaie de proposer un autre système éducatif. C'est pour ça qu'on montera aussi une école de formation pour les enseignants, pour proposer, dans, j'espère, 5 ou 10 ans, une fiche de route pour le futur ministre de l'Éducation.
Marjorie, parfois, ces écoles alternatives peuvent aussi aider à retrouver le chemin de l'école classique.
Oui, elles ne sont pas forcément opposées. C'est la mission, par exemple, de l'école Kerber à Grenoble, qui s'adresse aux enfants de 6 à 9 ans. Alors, cette école, elle est privée, mais elle est entièrement gratuite. Elle s'inspire de la pédagogie des intelligences multiples, c'est-à-dire qu'elle vise à développer 6 autres formes d'intelligence chez l'enfant, comme l'intelligence musicale, par exemple, ou l'intelligence spatiale, en plus des capacités verbales et logiques que l'on travaille dans les établissements publics. L'objectif de cette école, en fait, c'est de fournir une bulle à des enfants à qui l'école traditionnelle ne convient pas. Il s'agit souvent d'enfants qui ont besoin de plus de temps dans l'apprentissage, souvent très introvertis et qui n'arrivent pas à s'intégrer dans une classe dite traditionnelle. Alors, grâce à des petits effectifs, l'objectif, c'est de leur redonner confiance afin qu'ils repartent par la suite dans une école classique en sachant parfaitement lire, écrire et compter.
Elle coûte combien, votre école, Lionel Sayag ?
Donc nous, on a des tarifs qui varient en fonction du revenu des parents. Donc,
du revenu des parents ?
Oui, tout à fait. Donc, il y a 8 tarifs différents. Donc c'est justement pour cette volonté d'inclusion. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, donc nous aussi on s'inspire des théories de Garner sur les intelligences multiples. Et l'idée c'est d'une école inclusive, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont normalement inadaptés à un système traditionnel, donc des enfants intellectuellement précoces, des enfants qui ont parfois des handicaps beaucoup plus lourds. Et ben nous, cette diversité, on s'en sert justement pour que tous les enfants aient la chance de pouvoir développer leur singularité.
Les tarifs vont de combien à combien ?
Ça va de 390 euros à l'année à 11 520 euros l'année.
D'accord. Et en fonction des problématiques des uns et des autres, puisque vous nous disiez qu'il y avait des enfants qui étaient peut-être moins adaptés au système traditionnel, ça veut dire que vous employez un personnel dédié à un enfant, un personnel particulier ?
Pour des enfants qui ont besoin d'un assistant de vie scolaire, oui, tout à fait.
Mais au-delà de la VS,
est-ce que... nos enseignants sont formés aussi à...
Vous les recrutez comment ? C'est des enseignants de l'éducation nationale ou vous allez les chercher ?
Il y en a qui sont passés par l'éducation nationale, il y en a qui repartent dans l'éducation nationale. Nous, on a un système de formation qui est extrêmement important. C'est un des clés de développement du système, en fait. Il y a des écoles en Finlande aujourd'hui où les enseignants sont formés pendant 5 ans. Nous, en France, c'est beaucoup moins. Et donc, l'idée, c'est aussi de les accompagner à se former, à se développer eux-mêmes. Et donc, de transmettre un petit peu, d'une manière collaborative aussi, une énergie différente aux enfants.
Convaincu, Fabrice ?
En tout cas, je trouve ça très séduisant. Effectivement, moi, mes filles, elles sont un peu plus grandes. Et c'est pour ça que j'ai pas vu beaucoup de collèges aujourd'hui ou de lycées sur des projets proches.
C'est vrai que ça commence beaucoup en maternelle, primaire. Et ensuite, on est un petit peu à la rue, j'ai envie de dire, sur les écoles alternatives.
En tout cas, on a cette volonté-là, mais il y a beaucoup de besoins. Après, ce qui est sûr, c'est que plus on s'approche du bac, plus les parents ont peur, en fait. Moins ils sont prêts à relâcher cette pression d'un système traditionnel. Et donc, il faut trouver le juste équilibre. Et donc, nous, on considère qu'on va commencer par l'école primaire élémentaire, et puis ensuite aller progressivement, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de l'éducation, et c'est pour ça qu'il y a autant d'ouvertures d'écoles. Les gens sentent bien qu'il y a un décalage de plus en plus important.
Mais parce que les enfants ne sont plus les mêmes. Ils ont des capacités cognitives qui ne sont plus celles des années 80. Ils sont élevés avec des stables, avec des smartphones, donc leur cerveau ne fonctionne pas de la même manière aussi.
Sans doute, oui. Et parce que le monde évolue, et parce que nos compétences dont on a besoin évoluent aussi, et parce que nous aussi, on est davantage éveillés sur toutes ces questions-là, et il y a plein de choses que faisaient nos parents qu'on ne referait pas du tout à nos enfants aujourd'hui.
On reste ensemble, on parle des écoles alternatives aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h50.
Europe 1.
Une école qui s'adapte aux enfants plutôt que des enfants qui s'adaptent à l'école. Une école fondée par la recherche, c'est l'ambition de la Lab School Paris. Tout ce qui peut contribuer à rendre les apprentissages efficaces. On en parle et c'est dans un instant sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h. Gros plan aujourd'hui sur les écoles alternatives, Elisabeth Assayag.
Oui, nous sommes toujours avec notre coach du jour, Fabrice Marcella du village Baïséa, Marjorie Adelson qui nous apporte tous les petits points d'éclairage sur ce dossier du jour des écoles alternatives. Tiens, on va aller voir une autre école. Hein. Nous avons parlé de l'autre école avec Lionel Sayag à Boulogne. Maintenant, on va se tourner vers la Lab School Paris. Là-bas, une feuille de route par semaine est attribuée à chaque enfant au début de la semaine avec des exercices mais aussi avec un projet personnel hebdomadaire, ce qui donne une liberté à chacun. L'enfant doit se débrouiller pour qu'il réalise lui-même sa feuille de route. Bonjour Pascal Hag.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, fondatrice de la Lab School Paris et membre du laboratoire Bonheur de l'Université de Cergy-Pontoise. Ça se passe comme ça dans vos Lab School, c'est-à-dire que chaque lundi, l'enfant reçoit une feuille de route et il doit tout mettre en œuvre pour déployer son autonomie en concertation avec les autres enfants?
Pas tout à fait. Ce que vous avez décrit, ce n'est pas exactement ce que j'avais dit. Mais on a une pédagogie qui s'inspire à la fois de pédagogues comme Célestin Freinet ou Maria Montessori, qui sont bien connus en France, et aussi qui s'inspire de ce que la recherche nous apprend plus récemment en psychologie, en sciences cognitives, en sociologie.
Alors ça se passe sur, comment, concrètement, pour alors, un enfant qui vient chez vous?
Concrètement, ouais. On suit comme l'autre école le socle commun de l'éducation nationale. On a le matin principalement des fondamentaux et je pense que si on peut dire qu'ils ont un programme personnalisé, c'est parce qu'on est en multiniveau.
Donc ils ont bien un programme personnalisé sur mesure et l'enfant doit mettre en œuvre pour réaliser ce programme.
Exactement, mais ils ne sont, sont pas livrés à eux-mêmes face aux apprentissages.
Non, évidemment, ils ne sont pas tout seuls. Il y a toujours un professeur, sinon ce ne serait pas une école.
Absolument. Et surtout, on a une approche qui est vraiment fondée sur quatre étapes où il y a d'abord une transmission d'un minimum de connaissances parce qu'on ne demande pas aux enfants de tout reconstruire, de tout réinventer. Sinon, c'est trop lourd cognitivement, c'est trop fatigant. Donc, ils ne sont pas en train de réinventer l'eau tiède. Mais donc, il y a une transmission de savoir. Mais après, avec une pratique qui est d'abord accompagnée, puis une pratique autonome.
C'est ça.
Du tutorat donc, par les pairs. Ils travaillent beaucoup entre eux aussi.
C'est ça. Donc, en concertation avec
les, de demander de l'aide.
Avec les autres élèves et la possibilité de demander une aide avec un professeur qui est là. Pourquoi l'enseignant chez vous sera plus attentif par rapport à une autre école? Qu'a-t-il de différent et de particulier?
Il y a déjà le taux d'encadrement qui est particulier.
C'est-à-dire?
C'est une école bilingue où il y a en permanence deux enseignants, un anglophone, un francophone, pour une trentaine d'élèves de trois niveaux. Donc 6-9 ans pour CPC1, CE2, 9-12 ans CM1, CM2, 6e. Et puis 5e, 4e, on n'a pas encore ouvert la 3e, mais on a effectivement commencé le collège depuis 2 ans.
Donc,
le fait d'avoir deux enseignants pour 30 élèves fait qu'on a plus facilement un enseignant disponible et on est dans ce dispositif qu'on appelle l'immersion réciproque, c'est-à-dire qu'il y a toute la journée et de l'anglais et du français. Et donc pour l'acquisition du bilinguisme, c'est aussi une approche dont la recherche a montré qu'elle était plus efficace que l'alternance.
Donc objectif le bilinguisme, mais quoi d'autre? Parce que des écoles bilingues, il y en a.
Il y en a absolument. Pour nous, l'objectif, c'est que l'enfant puisse devenir un citoyen épanoui, et c'est-à-dire à la fois un citoyen qui ait les connaissances scolaires et académiques nécessaires pour pouvoir choisir son parcours plus tard dans la vie, et aussi de développer énormément toutes les compétences qu'on peut appeler socio-émotionnelles ou les compétences sociales, de façon à pouvoir à la fois développer leur créativité, leur capacité à collaborer. Donc de ce point de vue-là, on est assez proche de l'autre école. Mais on travaille aussi beaucoup en mettant les enfants en position de chercheurs. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui viennent à l'école, qui collaborent soit avec les enseignants, soit avec les élèves, et on leur donne une méthodologie de travail qui leur permet aussi de développer leur esprit critique en allant être vigilant par rapport aux sources qu'ils consultent, etc.
Et leur autonomie. Marjorie, les écoles alternatives, on en parle là depuis tout à l'heure, elles ont beaucoup évolué ces dernières années, et les méthodes ont tellement évolué que parfois les écoles publiques s'en inspirent.
Oui, en fait, c'est le cas de l'école primaire en fait, de Blanquefort sur Briolance, dans le Lot et Garonne. Il s'agit de la première école publique qui propose une pédagogie Montessori. Elle a été validée par l'État en 2016 et c'est la seule à ce jour. Elle est donc complètement gratuite. L'initiative, eh bien, elle ne vient pas d'un enseignant, mais de Sophie Gargovitch, la mère de Blanquefort-sur-Briolance. À l'origine, elle a eu cette idée pour attirer les parents et éviter que cette école qui était située en zone rurale ne ferme, faute d'élèves. Le pari est donc plus que réussi au final, puisque cette école aujourd'hui croule sous les demandes, notamment des parents issus des villes voisines.
Pascal Hague, vos tarifs aussi sont élevés concernant la Lab School Paris ?
C'est dégressif et ça va jusqu'à la gratuité puisqu'on a la chance d'avoir deux fondations qui nous ont donné des bourses qui nous permettent d'accueillir des enfants de milieux défavorisés. C'est vraiment la condition sine qua non. Donc on a des enfants qui sont totalement exonérés de frais de scolarité. Mm-hmm. On a à peu près 10% des élèves qui sont totalement exonérés. Et après c'est graduel, c'est des tarifs dégressifs en fonction des revenus familiaux. Et ça peut aller jusqu'à 10 000 euros, effectivement, parce que les parents qui acceptent de payer cette somme-là font preuve de solidarité aussi pour permettre à des personnes de milieu plus modeste de payer 200 ou 300 euros au lieu de 1 000 par mois, par exemple.
Que dit notre coach Fabrice Marcella ?
En fait, moi, je m'interrogeais tout particulièrement sur les soft skills, qui est un sujet, en tout cas, très à la mode aujourd'hui, même dans les entreprises. Et comment, à l'école, on développe les soft skills concrètement ? Comment on peut développer
c'est
ça ?
C'est quoi les soft skills ? Rappelez-nous ce que c'est, Fabrice.
Ce qui était dit aussi précédemment, les compétences socio-émotionnelles. En tout cas, qui sont des compétences aujourd'hui
qui sont mises en avant, même chez les recruteurs. Hein, en entreprise, c'est hyper important, les soft skills.
Donc, vous êtes bien, en tout cas, en adhérence avec les attentes de l'entreprise. Mais concrètement, comment on le développe chez l'enfant ?
Alors, pour vous en donner un exemple, l'une des caractéristiques d'une Lab School, c'est aussi de travailler avec d'autres écoles que la Lab School elle-même, à travers un réseau, et nous accompagnons une école maternelle où tout le projet de l'école, c'est d'aider les enfants, c'est dans le 19e arrondissement à Paris, d'aider les enfants à mieux réguler leurs émotions, mieux les connaître. On sait très bien que la première étape, c'est d'apprendre à les verbaliser, à les identifier, donc faire tout un travail à travers des histoires au niveau du vocabulaire, puis à travers des pratiques artistiques, apprendre à les jouer, apprendre à respirer, avoir dans la classe une boîte à émotions dans laquelle il y a des crayons, des balles anti-stress, un miroir pour regarder sa tête, et avec vraiment l'idée que les émotions font partie de la vie et que la manière dont on va apprendre aux enfants à les apprivoiser et à s'en servir, puisqu'elles ont une fonction aussi, elles ne sont pas là pour rien.
Merci à vous, Pascal Hague, merci beaucoup. Je tenais à parler de Caminando avec Muriel Fifis, qui est une école qui pratique de la nature, des savoirs, qui se trouve à Saint-Ferréol. On y tenait énormément parce que là aussi, c'est une école alternative qui accueille des élèves du CP au CM2. Ils sont tous mélangés, ils vivent ensemble toute la journée. Ils sont loin de passer des longues heures de classe passées assis derrière un bureau. Et là aussi, ça s'inspire d'un enseignement lié à la nature, du vivre ensemble dans la nature. Anissa, Fabrice, Marjorie.
C'est passionnant, toutes ces écoles.
Oui, toutes ces écoles sont passionnantes. C'est malheureusement déjà la fin de cette émission. On a envie d'en parler des heures et des heures, de ces écoles alternatives. Merci à vous, Lionel Sayac, pour l'autre école. Je remercie Muriel Fifis, qu'on n'a pas entendu, fondatrice de Caminando, l'école pratique de la nature et des savoirs qui se trouve au château Saint-Ferréol. Merci à vous, Marjorie. On vous retrouve demain.